France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
C'est une carte qu'on trouve accrochée au mur des écoles du monde entier, un planisphère qui représente les mers et les continents de notre planète ronde. Mais comment a-t-on fait d'une sphère un plan ? On doit à un voyageur immobile, un certain Gérard Mercator, cette projection cartographique créée au XVIe siècle à destination des navigateurs qui voguaient dans un monde aux frontières soudain étendues. Comment cette représentation est-elle devenue un standard ? Et pourquoi est-elle aujourd'hui remise en question ? Science Chrono joue aujourd'hui le monde carte sur table. Bonjour Emmanuel Vagnon.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche CNRS au laboratoire de médiévistique occidentale de Paris et vous êtes spécialiste de l'histoire de la cartographie occidentale du Moyen-Âge à l'époque moderne. Vous êtes par ailleurs la co-autrice avec Jean Leveugle du livre Géographia, l'Odyssée cartographique de Ptolémée, paru aux éditions de la BNF. Je suis ravi de vous recevoir pour ouvrir cette troisième saison de Science Chrono sur France Culture. Et c'est un immense bonheur aussi de vous retrouver toutes et tous, chères auditrices, chers auditeurs. Cette année encore, on explorera chaque vendredi l'histoire des sciences dans la première demi-heure de l'émission, en prenant à chaque fois appui sur une archive sonore. Quant à la deuxième demi-heure, elle sera bien sûr consacrée à l'entretien archéologique, qui nous permettra de voyager dans le passé de l'humanité et de réactualiser nos connaissances sur ce passé grâce aux découvertes réalisées sur le terrain des fouilles. Sans perdre plus de temps, d'ailleurs, je vous annonce le programme de l'entretien archéologique du jour. Tout à l'heure, nous parlerons du cannibalisme à la préhistoire, à l'aune des dernières découvertes réalisées notamment à Atapuerca en Espagne. On se demandera comment on peut établir avec certitude des pratiques cannibales chez nos lointains ancêtres et on verra pour quelles raisons il est encore difficile de donner une explication définitive à ces pratiques. Mais avant d'aborder ce sujet nourrissant, revenons-en à notre premier plat du jour, l'histoire des sciences, et aujourd'hui une histoire qui justement nous fait mettre le monde à plat. Emmanuel Vagnon, vous allez nous aider à comprendre l'importance de cette projection cartographique proposée par Mercator au XVIe siècle. Avant qu'on parle de lui et de son travail, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre grâce à quelles cartes on circulait jusqu'au début du XVIe siècle, à quoi ressemblaient ces cartes et qui en étaient les utilisateurs.
Oui, Mercator réalise sa carte en 1569, mais il est héritier d'une très longue tradition cartographique. Et il faut savoir que au début du XVIe siècle, on utilise à peu près deux grands types de cartes. D'une part, des cartes marines, qu'on appelle aussi parfois des cartes portulans, et puis des cartes qui sont issues de la géographie de Ptolémée. Alors, commençons par les cartes marines. Les plus anciennes connues datent de la fin du XIIIe siècle, notamment la carte pisane, conservée à la Bibliothèque nationale de France. Et ce sont des cartes qui représentent l'espace maritime et non pas l'espace terrestre. Et elles sont fondées sur des mesures et sur des orientations. Donc, la caractéristique des cartes marines médiévales, ce sont des roses des vents qui indiquent les caps de navigation à partir de l'utilisation de la boussole. Et ce qui est déjà extraordinaire dans cette cartographie, c'est le souci de représenter les formes réelles des côtes grâce à une échelle graduée. Mmh. Donc dans ces cartes marines, on a à la fois un souci des angles et un souci des distances.
À quoi elles ressemblent ces cartes ? Parce qu'elles sont, vous le dites, essentiellement centrées sur le monde maritime, sur les ports, sur les îles, sur les obstacles maritimes. Moi, j'ai regardé la carte pisane et j'étais totalement, c'est le cas de le dire, déboussolé.
Pourtant, c'est la boussole qui est à la base de ces cartes, bien sûr. Et elles sont d'abord utilisées en Méditerranée et elles représentent la Méditerranée et la mer Noire, c'est-à-dire l'espace antique, finalement, fréquenté par les marins depuis l'Antiquité, mais qui est formalisé seulement au cours du Moyen-Âge, grâce à la boussole notamment. Et ces cartes représentent simplement les côtes, le tracé des côtes, avec l'énumération des noms des ports qui sont perpendiculaires aux côtes à l'intérieur des terres. Et puis ces cartes sont caractérisées aussi par des indications nautiques sur les accidents de navigation, notamment les écueils, les bancs de sable, les estuaires des fleuves. Quelquefois, elles sont ornées aussi d'indications à l'intérieur des terres sur les exemplaires qui sont les plus luxueux. Mais voilà, effectivement, ce sont des cartes qui résument finalement l'espace à l'espace maritime, comme vu depuis un bateau et avec un instrument de navigation à la main.
Alors, vous évoquiez un autre grand nom quand on parle de géographie, de cartographie, c'est celui de Claude Ptolémée, géographe, mathématicien, astronome d'Alexandrie du 1er et 2e siècle. Quelle importance il a, lui, dans l'histoire de la cartographie, cette fois une cartographie qui va représenter plutôt les terres ?
La géographie de Ptolémée, ça représente la cartographie savante de l'Antiquité qui est retrouvée à la Renaissance selon une sorte de mythe hein, qui dit que la Renaissance, c'est la Renaissance de l'Antiquité, précisément. La géographie de Ptolémée, c'est le troisième livre de Ptolémée. On connaissait déjà son traité d'astronomie et son traité de mathématiques qui avait été traduit d'après les textes arabes. En revanche, la géographie avait été presque oubliée, en tout cas elle était inaccessible dans le monde latin pendant une grande partie du Moyen-Âge. Et c'est à la fin du XIVe siècle qu'un érudit byzantin qui s'appelle Manuel Chrysoloras rapporte en Italie un exemplaire en grec de la géographie de Ptolémée et entreprend avec ses élèves de la traduire en latin. Ce qui est fait vers 1409 hein, par un de ses élèves, Jacopo d'Angelo.
Qu'est-ce qu'il avait introduit, Claude Ptolémée, dans sa façon de fabriquer des cartes qui diffèrent justement de ces portulans, de ces cartes établies par les marins ?
La géographie de Ptolémée est composée à partir de principes qui sont totalement différents. En réalité, Ptolémée formalise l'idée d'un graticule, des coordonnées en latitude et longitude. Et le principe mathématique dont nous avons hérité indirectement, c'est le principe que tous les lieux de la Terre sont disposés sur une grille avec des latitudes et des longitudes, ce qui permet de passer d'une carte générale du monde à des cartes régionales de manière très fiable.
Ce qui distingue finalement ces portulans de la carte de Ptolémée, c'est cette notion clé dans notre émission, cette notion de projection. Comment est-ce qu'on peut définir cette notion-là de façon assez simple pour nos auditrices et nos
auditeurs ? C'est un des grands apports de la géographie de Ptolémée, en effet, qui est en fait un manuel de fabrication d'une carte mathématique. Ptolémée commence par expliquer le principe de la projection cartographique, c'est-à-dire nous vivons sur un globe, sur une sphère. Ce qu'on sait hein, depuis l'Antiquité, qu'on n'a pas du tout oublié au Moyen-Âge. Le problème cartographique, c'est de projeter cette sphère sur un plan, c'est-à-dire de dessiner une carte qui soit conforme à sa représentation telle qu'elle se présente sur un globe. Donc le principe de la projection cartographique, c'est de mettre à plat véritablement le globe terrestre.
Ça permet donc du coup une certaine façon, une certaine mathématisation de la carte qui ne requiert pas forcément du coup un voyage et une exploration. Cette carte du monde méditerranéen pensée et vue par Claude Ptolémée, à quoi ressemble-t-elle ? Elle est encore, il y a pas mal d'aberrations quand même dans cette projection-là.
Alors une des grandes différences, c'est que la map monde de Ptolémée ne concerne pas que l'espace méditerranéen. Elle représente tout le monde connu à son époque, c'est-à-dire deuxième siècle après Jésus-Christ. Et donc c'est un monde qui s'étend, selon lui, des îles Fortunées, c'est-à-dire nos îles Canaries, jusqu'à l'extrême-orient, c'est-à-dire l'extrémité de la Chine, et même le Japon, qu'on n'appelait pas ainsi à cette époque-là. Et donc, l'idée, c'est que le cumène, l'espace habitable, occupe 180 degrés du globe terrestre. Et que l'on peut le représenter, en réalité, en ne représentant que la partie de l'hémisphère nord, donc peut-être simplement un quart de la sphère terrestre qui peut être représentée sur un plan. Et en effet, c'est un principe mathématique parce que la géographie de Ptolémée, c'est pas du tout un récit de voyage, c'est une liste de coordonnées, d'ailleurs très très austère. Plus de 8000 toponymes sont présentés avec leurs coordonnées géographiques en latitude et longitude avec les moyens de l'époque. C'est-à-dire calculés approximativement d'après des distances de voyage et aussi d'après l'observation des astres.
Je crois qu'il y a une précision qui est encore assez redoutable puisqu'il est pas si loin finalement des coordonnées qu'on a aujourd'hui.
Alors, on a tout de suite, hein, dès sa traduction, constaté des erreurs. Hein. Donc, ce qui est frappant quand même, c'est quand on voit ces cartes qui ont été faites au XVe siècle, hein, c'est pas les cartes grecques, on a quand même une certaine ressemblance. On a l'impression de reconnaître les contours des continents avec des déformations très importantes et des hypothèses aussi, puisque Ptolémée ne connaissait pas, c'est que par ouï-dire l'Extrême-Orient. Il estime, par exemple, qu'une langue de terre rejoint l'Afrique à l'Asie et que donc l'océan Indien est un océan fermé.
Aujourd'hui, on a tous dans notre poche, un téléphone avec une carte accessible quand on veut, ou bien dans nos voitures, on a nos atlas routiers pour les plus traditionnalistes, on va dire, de la carte. Au 15e, 16e siècle, qui utilisait des cartes ?
Alors les cartes sont utilisées finalement dans des milieux de cultivés. Hein. Des cartes sont pas à la portée de tout le monde. Donc on trouve des cartes au Moyen-Âge, on trouve des cartes à l'époque moderne, mais elles ne sont diffusées de manière vraiment large que à partir de l'imprimerie. Donc vraiment un moment historique à comprendre, c'est que la Renaissance c'est aussi le moment de l'expansion de l'imprimerie et donc de la diffusion de la culture par des livres qui sont beaucoup plus accessibles. Donc les cartes existent hein, et elles sont utilisées. Donc ce sont des cartes manuscrites. manuscrites hein, utilisées par les marins. Mais ce qui se passe, c'est à partir du milieu du XVe siècle, c'est qu'on commence à faire des cartes imprimées et que l'image du monde devient de plus en plus répandue.
Et c'est des objets vraiment de prestige et qui expliquent finalement ces ornementations. C'est des très très belles cartes, ces cartes du Moyen-Âge, de la Renaissance, qui sont des œuvres d'art en soi.
Les cartes marines, surtout celles qu'on a conservées, sont des œuvres d'art et on pense d'ailleurs qu'elles n'ont jamais servi à la navigation. Mmh. Donc ce sont des compilations de savoir sur le monde, mais qui sont offertes à une élite, à une élite culturelle ou oui. financière. Voilà. Donc ces cartes sont des objets de prestige, sont des objets de bibliophiles. Et de même, la géographie de Ptolémée, qui a été diffusée dans des manuscrits de très très grand luxe, c'est vraiment un objet de prestige comme un héritage de l'Antiquité. Au début du XVIe siècle, néanmoins, des savants reprennent immédiatement le contenu de la géographie de Ptolémée pour en faire des nouvelles éditions, mmh. augmentées, commentées, corrigées, et qui sont diffusées cette fois sous forme imprimée. Sachant qu'il s'agit aussi de livres de luxe. Hein. Les premiers livres imprimés sont des livres de luxe également.
On en arrive là à notre personnage du jour, Gert de Kremer. Qui est-il, cet homme qui va rebattre les cartes du monde? Dans quel environnement il est né en 1512?
Alors, Gert de Kremer, c'est son nom flamand, et dans les milieux savants, à cette époque-là, on latinisait son nom. Donc, on le connaît sous le nom de Gérardus Mercator, c'est Gérard le Marchand, hein, en réalité. Il est né près d'Anvers, à Rupelmonde, en 1512, dans un milieu assez modeste. Mais à cette époque, comme au Moyen-Âge, les enfants un peu brillants, qui avaient quelques capacités intellectuelles, étaient envoyés dans les écoles, et pouvaient suivre un cursus universitaire. C'est ce que fait Gérard Mercator, il est envoyé à l'université à Louvain, où il fait des études d'art, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il apprend à la fois le trivium littéraire et le quadrivium mathématique, et il a d'excellents professeurs, mmh. surtout.
Il fait des rencontres aussi déterminantes. Je crois qu'il rencontre à Anvers un moine franciscain, Franciscus Monacus, qui lui a une belle collection de cartes. Et c'est ce qui va le conduire doucement aussi vers cette idée de cartographie. Alors, quels sont ses travaux? Je crois que c'est d'abord des travaux un petit peu d'artisanat. Il va fabriquer lui-même des globes.
Oui, alors il a quand même une formation théorique très poussée avec Gemma Frisius, qui est le grand savant qui enseignait les mathématiques à Anvers à l'époque. Donc, il s'intéresse à la cosmologie. Gemma Frisius a lui-même proposé des traités sur des instruments de mesure, sur la cartographie. Donc, vous avez cette appréhension qui est à la fois théorique et très pratique, en effet, puisque Mercator se met à fabriquer des globes et se met à fabriquer des cartes modernisées et imprimées.
Ces premières cartes qu'il fabrique, Emmanuel Vanier, Gérard Mercator, c'est quelle carte? Il ne va pas commencer par le planisphère, il va commencer tout de suite par la carte du monde.
Non, alors il y a à cette époque un grand développement de cartes locales, de cartes régionales, pour des raisons d'ailleurs qui sont aussi des raisons politiques, de nationalisme, etc. Donc ces cartes sont à ce moment-là développées et Gérard Mercator fait une carte de Terre Sainte et aussi une carte des Flandres hein, qui est célèbre.
Alors on va y venir dans un instant et on va bien sûr parler de ce travail de Mercator pour comprendre cette projection de Mercator. Je vous propose d'écouter notre archive du jour. On y entend la voix du géographe belge Bernard Jouret dans l'émission Les Chemins de la Connaissance, diffusée sur France Culture le 1er décembre 1994. Une émission joliment intitulée Un voyageur sans voyage, Mercator cartographe.
Mercator est un scientifique de haut vol. Quand on voit ce qu'il a réalisé incontestablement, c'était un homme qui connaissait déjà toutes les bases mathématiques de l'époque. Alors, ce qui est remarquable, c'est que cet homme-là, qui a fait des tas de cartes différentes, des tas de cartes du monde, la célèbre carte des Flandres, connaissait beaucoup de systèmes de projection qui avaient des qualités et des avantages et des défauts différents. Mais lui s'est vraiment acharné à essayer de trouver une projection qui permette une représentation droite de la loxodromie. Alors là, je donne une petite précision. La loxodromie sur la sphère, c'est une courbe qui recoupe tous les méridiens, toujours selon un même angle, cet angle étant l'azimut. Donc, pour arriver à avoir une représentation droite de cette courbe particulière, il fallait une projection cylindrique, où les méridiens et les parallèles sont représentés par des droites perpendiculaires. Mais il fallait, pour assurer la conformité, c'est-à-dire la non-altération des angles, puisque il fallait une projection conforme, il fallait donc trouver l'écart progressif entre les parallèles, la représentation des parallèles, pour assurer cette conformité et pour assurer cette grande caractéristique mercatorienne qui est la représentation droite de la loxodromie. Eh bien, il l'a faite à l'époque, vers la moitié du XVIe siècle. Et il a d'autant plus de mérite, en fait, que le calcul différentiel et intégral n'existait pas. On a démontré mathématiquement sa projection, en gros un demi-siècle plus tard. Et ça, c'est assez extraordinaire.
Voilà, Emmanuel Vagnon, c'est assez extraordinaire. 1569, donc, c'est la date à laquelle Mercator propose sa projection cartographique pour représenter tous les continents. Le titre « Nouvelle description de la Terre, augmentée et mise à jour, adaptée à l'usage de la navigation ». Qu'est-ce que vous retenez de cette archive où on entend la voix de Bernard Jouret qui pose déjà des détails un peu techniques de cette projection cylindrique de Mercator? Qu'est-ce que c'est qu'une projection cylindrique si on doit résumer?
Si on doit résumer, il s'agit de placer le globe terrestre à l'intérieur d'un cylindre et de projeter sur ce cylindre toutes les formes cartographiques qui sont sur le globe terrestre. Donc c'est une manière finalement de transférer cette forme sphérique sur le plan. Ce qui explique très bien cette archive, hein, c'est que cette projection cylindrique produit nécessairement des déformations dans les latitudes hautes, puisqu'il s'agit de transférer des méridiens qui convergent vers des pôles sur un graticule, que j'aime bien cette expression, un quadrillage, hein, en réalité orthogonal. Alors si l'on passe d'un globe avec des fuseaux qui convergent vers les pôles à un quadrillage orthogonal, on produit des déformations, et des déformations que l'on peut calculer mathématiquement. C'est ça l'apport de Mercator.
Ces déformations, elles existent encore quand on regarde un planisphère dans une classe, par exemple, d'école. On voit que le Groenland est quasiment aussi gros que l'Afrique, alors que le Groenland fait 14 fois moins grand que l'Afrique. Donc cette déformation, c'est juste voilà une déformation commode. Mais si on en revient à la nécessité de cette nouvelle projection de Mercator, il faut aussi recontextualiser cette colonisation du Nouveau Monde, cette découverte de nouveaux continents, quelle l'utilité immédiate à cette projection de Mercator?
Alors, l'intérêt de Mercator est un intérêt effectivement scientifique et mathématique. Il s'agit de résoudre finalement la différence entre le principe des navigateurs qui utilisaient donc ces loxodromes, hein, ces lignes de vent qui sont d'ailleurs portées hein, sur les cartes marines, et le système en orthogonal de Ptolémée. Donc il s'agit finalement de faire converger deux systèmes de représentation. Il faut peut-être ajouter aussi un détail, c'est que les cartes marines sont fondées sur le nord magnétique, le nord de la boussole, alors que le système de Ptolémée et le système astronomique est fondé sur le pôle réel, le nord réel. Oui. Géométrique. L'idée, c'est de faire converger les deux systèmes, hein, et de réconcilier les deux systèmes. Et c'est une réflexion que Mercator ne fait pas véritablement pour les navigateurs, même si c'est écrit « ad usum navigantium », à l'usage des navigateurs, mais ce sont certainement pas les navigateurs qui lui ont demandé directement. Il s'agit d'une réflexion mathématique, intellectuelle, de conciliation de deux modèles cartographiques qui, chacun dans son domaine, est juste ou faux. Enfin, voilà, selon le point de vue que l'on a, chaque projection cartographique, finalement, a ses défauts, a ses erreurs. Il n'y a pas de projection cartographique parfaite, il faut bien le comprendre. Alors, la projection de Mercator, elle a cet avantage immense d'être conforme, c'est-à-dire qu'elle respecte les angles. Et comme le dit très bien l'archive sonore, une droite tracée sur la carte correspond au cap du navire dans la réalité. Et c'est cette conformité d'angle entre la réalité et la carte qui est recherchée par les navigateurs, mais aussi les pilotes d'avion. Et donc, ça a toujours son utilité aujourd'hui.
C'est un Graal parce qu'à partir du moment où on tire une droite sur ce planisphère, le marin garde son cap. Alors, bien sûr, il n'a pas une notion des distances respectées, mais au moins, il sait qu'il est dans la bonne direction quand il tire cette droite sur cette carte.
Et donc, c'est ça qui est cherché dans cette carte. Hein. C'est ce qu'on appelle une projection conforme. Alors, qui, en revanche, ne respecte pas du tout les surfaces. Ce qui fait que, effectivement, on a un Groenland vraiment surdimensionné, et ce qui avantage nettement toutes les nations qui sont proches du pôle Nord, qui sont dans les latitudes hautes par rapport à l'équateur.
Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans cette archive aussi, c'est le fait que Bernard Jouret dise que Mercator n'avait pas toutes les cartes mathématiques en main, tous les outils mathématiques en main pour développer cette projection. Et je trouve ça assez impressionnant quand même de se dire que il n'était pas, voilà, il n'avait pas tous les outils en main, mais il a quand même fait une projection fiable.
Il a une intuition mathématique qui est tout à fait exacte. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut reporter sur la carte les déformations qui sont faites dans les hautes latitudes. Lorsqu'on passe de la sphère au plan, la projection cylindrique, on a une déformation qui peut se calculer. Et donc, il s'agit de reporter cet agrandissement des parallèles en latitude. C'est-à-dire, l'écartement des parallèles va correspondre à l'agrandissement des parallèles en longitude. Donc, cette correspondance entre latitude et longitude, c'est ce qui permet de garder les angles.
Un autre élément aussi d'intérêt dans cette archive, c'est le fait qu'on parle d'un voyageur sans voyage. Et ça aussi, ça nous rappelle une pratique cartographique un peu étonnante. On parlait de ces portulans, finalement, de ces cartes qui étaient établies par les marins eux-mêmes, par l'expérimentation de leur voyage. Mercator, lui, il n'a pas du tout fait le tour du monde pour faire son planisphère.
Non, mais c'est une époque où on avait beaucoup de rapports aussi hein, de pilotes et de cartographes. C'est-à-dire que les planisphères de cartes marines hein, de l'époque enregistrent peu à peu toutes les découvertes qui sont faites par les Européens à travers le globe. Donc on a une somme de connaissances absolument incroyables, mais qui sont peu à peu théorisées. Et Mercator est loin d'être le seul à avoir testé des projections cartographiques. Hein. Dès le début du XVIe siècle, vous avez toutes sortes de savants qui établissent des projections polaires, par exemple, et des projections en deux hémisphères également. Par exemple, en France, on aura Ronsfine hein, qui établit toutes sortes de projections, par exemple une projection cordiforme qui est absolument magnifique en forme de cœur. Et donc cette conscience hein, qu'il y a un problème de projection cartographique, que le système de Ptolémée n'est pas suffisant, qu'il faut le corriger sans cesse, il est très présent. Et Mercator trouve la solution la plus satisfaisante de son époque avec un calcul qui est fait par approximation, hein, mais qui s'avère tout à fait juste.
À quoi ressemble ce premier planisphère ? J'imagine que c'est pas un planisphère d'un mètre par 1,50 m, comme on peut en voir affiché dans les maisons ou dans les écoles.
Alors, c'est une ambition éditoriale incroyable, hein, parce que c'est une carte en 18 feuillets imprimés, hein, qui sont juxtaposés et qui donc forment un cadre que l'on peut afficher sur un mur entier. Il s'agit aussi véritablement d'un défi commercial,
technique, hein,
technique
d'impression.
Absolument.
Et c'est du coup pas un planisphère qui se retrouve tout de suite dans la poche de tous les marins du monde.
Absolument pas. Et d'autant plus que les principes mathématiques utilisés sont un peu complexes pour les navigateurs de l'époque, si bien que les cartes marines continuent à être utilisées à la manière ancienne, avec quelques aménagements. On rajoute des échelles de latitude et de longitude. On change un petit peu aussi la déclinaison magnétique. Mais en réalité, la projection de Mercator est utilisée très tardivement dans la navigation.
Oui, c'est la question que je voulais vous poser, parce que pour nous, c'est révolutionnaire, parce qu'on l'utilise encore et on se dit, ah, ça a été inventé au XVIe siècle, ce planisphère, et on l'utilise encore, c'est merveilleux, mais ça n'a pas convaincu tout de suite les utilisateurs et ça a mis du temps avant de s'imposer comme modèle standard, on va dire.
Non, c'est une projection qui a été connue surtout dans les milieux savants, hein, dans une cartographie mathématique, savante, de cabinet. En revanche, dans les milieux des navigateurs, elle s'impose très tardivement, je dirais fin XVIIe ou XVIIIe siècle même.
Vous le disiez aussi tout à l'heure, Emmanuel Vagnon, le fait que toute carte est un peu trompeuse, toute carte en un sens est fausse. Une autre dimension de la carte, c'est que c'est un objet vraiment politique. Qu'est-ce que cette projection de Mercator a de profondément politique ?
Alors, elle a été beaucoup utilisée à l'époque de l'expansion européenne, donc elle est fortement liée aussi à une image du monde qui s'est développée à l'époque donc de la première colonisation européenne du reste du monde. Donc, elle est marquée historiquement hein, par cette expansion. Le fait est aussi que les premières cartes de Mercator, elles sont centrées sur l'Europe. Hein. L'Europe est au centre de la carte, c'est pour des aspects totalement pratiques, hein, puisqu'elle était fabriquée en Europe, mais elle met en avant justement cette position européenne par rapport aux autres continents. Troisième position, le fait que les latitudes hautes soient élargies comme ça, ça met en valeur aussi tout l'hémisphère nord du globe, au détriment des suds, de l'Afrique, mais aussi de l'Asie du Sud et aussi de l'Amérique du Sud. Et cette revendication de mieux représenter l'hémisphère sud, elle est ancienne, elle date pas d'aujourd'hui, même si on a des revendications récentes. Dans les années 70, par exemple, la projection de Gale Peters essayait de résoudre ce problème et de proposer ce qu'on appelle une projection équivalente, non pas conforme, donc on ne peut pas l'utiliser pour tracer un cap de navigation, mais qui rend justice en revanche à la taille des continents.
On va revenir bien sûr à cette question de la remise en question actuelle de la projection de Mercator, mais j'aimerais qu'on conclue un peu l'histoire et l'œuvre de Mercator, parler d'un autre travail géographique conséquent qu'il a fait, son fameux Atlas en 1585. Ça aussi, c'est un apport dont on n'a pas idée pour la cartographie, cet atlas. Quelle base pose Mercator avec cette compilation de cartes des pays du monde ?
Mercator, c'est l'inventeur du terme atlas. On n'utilise pas ce terme avant Mercator, on utilise un recueil de cartes éventuellement. Mais l'atlas, c'est l'ambition de créer un livre total. Un livre qui d'ailleurs a une dimension religieuse puisqu'il donne à voir la fabrique du monde. Comprendre la mécanique du monde entier par des cartes géographiques. Et c'est l'idée aussi de faire une compilation de la totalité des espaces connus dans une cartographie qui soit justement avec une échelle à peu près constante, avec une présentation des cartes qui soit toujours identique.
Standardisé, finalement.
Et standardisé. Ouais. Alors, c'est une ambition éditoriale, parce que c'est la production d'un atlas de ce type coûte absolument une fortune. À la même époque, son ami Abraham Ortelius compose un livre qui s'appelle le Theatrum Orbis Terrarum, le théâtre du monde, qui a aussi cette ambition de représenter la totalité du monde à travers des cartes. Et ces deux personnages étaient amis, ont travaillé ensemble. Ortelius a achevé son œuvre avant Mercator, et c'est l'œuvre de Mercator a été éditée en fait après sa mort par ses descendants.
Mercator est mort donc en 1594, ouais. Si je ne dis pas de bêtises, ouais. Il a quand même eu une longue vie pour un homme du XVIe siècle. Vous le disiez, il y a toujours eu des projections alternatives finalement pour ce planisphère, pour cette carte du monde. La projection de Mercator domine bien sûr, mais il y a des projections alternatives. Vous évoquez cette projection de Gale Peters qui part de 1855 et qui est réactualisée dans les années 1970. Et depuis quelques années, et c'est revenu un petit peu dans le débat public ces derniers mois, il y a des projets comme Equal Earth qui remettent en question la projection de Mercator. Il y a quelques semaines même, l'Union africaine a adressé officiellement son soutien à une autre campagne intitulée Correct the Map, corriger la carte. Alors quel est le fond de ces campagnes? Que demandent ces campagnes pour une modification de nos représentations du monde?
Alors c'est une revendication à la fois légitime et qui n'a rien de nouveau. C'est ça qui est étonnant, je trouve, cette démarche, c'est que ça fait des décennies qu'on dit que la carte de Mercator n'est pas suffisante pour un usage pédagogique. Elle est très utile, en effet, pour tout un usage de navigation ou pour un usage mathématique. Mais dans les écoles, ça fait longtemps, en fait, qu'on utilise d'autres projections cartographiques. Il n'y a pas que la cartographie de Mercator dans les livres scolaires, vous pouvez aller vérifier. Ce qui est demandé là, c'est de que le grand public, en fait, prenne conscience de cette distorsion des cartes. J'imagine que les géographes le savent très bien, que les milieux politiques le savent aussi. Mais c'est surtout l'image donnée publiquement de la forme des continents et de leur surface qui gagne à être modifiée.
Est-ce que ça veut dire du coup qu'il faut remiser au placard les cartes de Mercator et vraiment adopter ces cartes qui rendent par exemple plus fidèlement compte des réelles dimensions du continent africain, de l'Amérique du Sud par exemple?
Alors je pense que dans un usage qui serait de communication, il n'y a aucun problème à utiliser une carte qui ne soit pas conforme. Et effectivement, ça pourrait aider en effet à des représentations peut-être plus égales, voilà, du monde. En revanche, ça serait bien de faire un effort de pédagogie et d'expliquer à tout le monde que les cartes ne sont jamais exactes. Il n'y a jamais de projection qui soit totalement exacte et qui soit conforme à la réalité.
Et donc cette carte de Mercator, elle reste finalement encore très pratique et très commode.
Oui, elle a encore de beaux jours devant elle, j'imagine.
Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous, Emmanuel Vagnon, de nous avoir permis de déplier cette histoire cartographique qui continue, et c'est la beauté de l'histoire des sciences, de s'écrire au présent. Thank you. World Map par Ricky Heath Acid pour replier la grande carte du monde que nous venons d'explorer. On déplie à présent une autre carte, celle des temps anciens de l'humanité.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Quand on pense aux prédateurs de nos ancêtres à la préhistoire, on pense souvent à des tigres à dents de sabre ou bien encore à des ours des cavernes gourmands d'humains. Ce qu'on imagine moins, c'est que les humains se soient mangés entre eux et ce, quelle que soit l'espèce, depuis Homo antécessor jusqu'à Homo sapiens. Si le cannibalisme n'était sans doute pas une pratique récurrente et qu'elle dépend à chaque fois de contextes bien particuliers, de grandes hypothèses semblent tout de même se dessiner pour expliquer cette pratique anthropophage qui met la paléoanthropologie à l'épreuve et qui nous fait nous poser une question insolite. Mais au fond, pourquoi nos ancêtres mangeaient-ils parfois leurs semblables ? Pour nous aider à y voir plus clair dans ce cannibalisme de la préhistoire et nous rapporter les dernières découvertes sur le sujet, nous avons le plaisir d'être aujourd'hui avec Amélie Vialet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléanthropologue, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous aider à décrypter cette pratique du cannibalisme qui est de mieux en mieux documentée en paléoanthropologie, mais qui reste tout de même entourée de certains points d'interrogation. Je rappelle, Amélie Vialet, que vous êtes une spécialiste du site de la Cône de l'Arago à Totavel en France, où ont été trouvés des fossiles humains présentant des traces de cannibalisme. D'ailleurs, vous étiez venu nous parler de la Cône de l'Arago à ce micro il y a quelques temps. Pour commencer, Amélie Vialet, j'aimerais qu'on fasse un peu d'histoire de la paléoanthropologie. Est-ce que cette question du cannibalisme chez nos lointains ancêtres se pose depuis les premières découvertes de fossiles humains préhistoriques ?
Alors finalement, non. C'est ça qui est étonnant. C'est pas forcément une question pendant assez longtemps. Je crois que ça s'explique par le fait que finalement, ce genre de pratique laisse peu de traces. Donc, il faut être dans des contextes de fouilles qui sont très rigoureux, des méthodologies de fouilles et d'analyses qui sont vraiment extrêmement précises pour pouvoir commencer à apporter la preuve assez irréfutable, en tout cas très objective, de ce type de pratique.
Ça laisse peu de traces, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une raison plus philosophique, psychologique même, on n'a pas envie de voir dans nos ancêtres des anthropophages ?
Peut-être. En tout cas, c'est vrai que c'est pas une question qui se pose beaucoup en fait en France, en Europe. Ça se pose beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, qui peut-être développent un petit peu plus ces approches ethnologiques, ethnographiques, et font des liens surtout entre ces approches et la préhistoire. En France, il y a quand même à partir des années 50 un divorce assez net entre justement l'ethnologie et la préhistoire. Et la préhistoire, justement, elle va se baser sur les faits archéologiques et elle va se limiter, se restreindre à la lecture de ces faits. Donc c'est sans doute un petit peu ce qui explique que c'est une question qui va mettre du temps à émerger. Et puis après, on peut aussi établir un parallèle avec notre conception, donc contemporaine ou au cours des périodes historiques de la guerre, des conflits. Je parle de guerre parce que finalement, la pratique cannibale, on en parlera sans doute, est finalement souvent liée à une forme de violence. Voilà. Mmh. Et donc il y a quand même un parallèle qu'on peut établir avec notamment ces grandes guerres mondiales qu'on a connues au XXe siècle, ou alors les conflits qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement, c'est des questions auxquelles on va être sensible, justement, en fonction un petit peu de cette actualité. Et donc, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, après toutes les atrocités commises, après un petit peu cette saturation de violence, on a l'impression qu'on s'est un peu réfugié dans la préhistoire pour y trouver finalement un peu un paradis, voilà, un refuge. Et on a développé un petit peu, ça nous vient aussi de l'ethnologie, mais on a développé un peu ce concept de bon sauvage. En fait,
de Rousseau, voilà. Ouais.
Exactement. Et de ce fait, on a cultivé un petit peu cette image en fait d'un monde où la violence n'existait pas. Et donc ça aussi, il a fallu finalement le déconstruire à grands coups de preuves archéologiques pour pouvoir aujourd'hui observer la situation de façon un peu plus objective, même si on n'est pas objectif, on reste des chercheurs de notre époque. Et là encore, je pense qu'avec les conflits qu'on connaît aujourd'hui ou les formes de violence qu'on connaît, peut-être qu'on est un peu plus enclin finalement à voir ces humains comme étant un petit peu plus violents. Et il faut aussi considérer que cette déconstruction un peu de ce monde idéal spécialisée de la préhistoire. Elle voit vraiment, enfin, elle éclot dans les travaux de Lawrence Keeley, en 1996 notamment, qui a publié War Before Civilization, donc qui a montré que justement ces humains préhistoriques pouvaient tout à fait être violents.
C'est hyper intéressant de repasser par ce temps de la grande histoire et de rappeler que finalement l'archéologie, la préhistoire s'inscrit aussi dans un temps donné et dans des problématiques données, et que certains sujets vont plus ou moins être traités selon les préoccupations d'une époque très très actuelle. Si on s'en tient justement à ces faits, Amélie Viallet, quand on parle de cannibalisme, de quoi parle-t-on? Quand on parle d'anthropophagie, de quoi parle-t-on? Et pourquoi cette distinction entre cannibalisme et anthropophagie est en soi porteuse d'un certain sens?
Alors c'est vrai qu'il y a deux expressions. Donc le cannibalisme, c'est parce qu'on peut le partager pour tous les êtres vivants. Hein. La menthe religieuse est un être cannibale, voilà. L'anthropophagie va être restreinte à la, finalement au même concept. Hein. Donc on consomme son contemporain, on consomme son congénère, voilà. Mais on reste chez les humains. Alors c'est vrai qu'il y a cette racine aussi cannibale des tribus caribas. Donc ça c'est Christophe Colomb. Hein. C'est vraiment ces moments où on a cette rencontre avec un monde sauvage, entre guillemets. Donc, c'est vrai que dans le cannibalisme, quand on l'utilise pour les humains, ça véhicule quand même un petit peu cette notion de tout ce que ça
de
renvoie.
Primitivité,
de
d'une certaine façon, de préjugés, du coup, et du regard de surplomb. Vous parliez tout à l'heure des traces que laissent ces pratiques anthropophages, cannibales. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de mieux les déceler. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter comment, au cours des dernières décennies, on a pu justement identifier des traces. Qu'est-ce que c'est qu'une trace d'ailleurs de cannibalisme sur un ossement humain fossile ?
Alors, il y a un moment de bascule un petit peu, enfin d'ouverture en tout cas vers cette thématique, qui est rendue possible avec les travaux notamment de Paola Villa. Je pense que c'est intéressant, évidemment elle n'est pas toute seule, hein, il y a toute une époque, mais ça, vraiment son parcours est intéressant parce qu'elle vient de l'université de Berkeley. Elle est justement un petit peu influencée par un petit peu toute cette ethnologie, certains peuples indiens qui justement pratiquent le cannibalisme et des récits qui sont donc étudiés, etc. Donc c'est une idée qui lui est un peu commune, on pourrait dire, et elle va travailler en France, notamment sur le site de Fombrégois, qui est un site néolithique, voilà, dans le Var, là où finalement elle a un assemblage de restes humains qui montrent toute une série de traces. Et là, justement, on est dans le bon contexte. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte de fouille qui est bien mené, avec des ossements qu'on pense être contemporains sur un niveau de fouille. Et là, elle développe toute une méthodologie, justement, très précise, d'observation des traces laissées sur ces ossements, qui va permettre la démonstration, en fait, de cette pratique anthropophage. Donc, il faut les deux. Il fallait un peu cette éducation, cette ouverture d'esprit, cette sensibilité à ces sujets. Et puis ensuite, il faut le bon site archéologique dans de bonnes conditions pour pouvoir développer cette argumentation. Donc, il s'agit essentiellement de modifications, en fait, anthropogéniques, c'est-à-dire de traces laissées sur ces squelettes humains, apparemment par d'autres humains. Et donc, en fait, la solution, les éléments de l'argumentation, c'est de comparer avec ce qu'on a sur les animaux. Donc, si sur les restes humains, on trouve les mêmes traces que ce qu'on trouve sur les restes d'animaux qui, manifestement, ont été apportés dans cette grotte pour être consommés, eh bien, c'est qu'on en est venu à consommer ces humains de la même façon. Donc, elle insiste sur le fait qu'il y a un effet contexte. Il faut être dans un site où on est dans une espèce de dépotoir, hein, dans un sens, c'est-à-dire qu'on a laissé là les reliefs de repas, que ce soit justement la faune ou l'humain. Et ensuite, elle insiste sur la méthodologie à utiliser pour observer ces traces, qui peuvent être des traces de découpe, qui peuvent être des traces de fracturation, qui sont souvent aussi des traces de cuisson. Hein, et tout ça, sur les restes humains, amène à la conclusion de cette pratique anthropophage.
Alors, quand vous avez un os humain, ce qui est rare quand même quand on parle de ces temps très reculé, entre les mains, par exemple à la Côte de l'Arago, quelle trace va vous faire vous dire « Ah là, il y a peut-être eu une pratique cannibale ?»
Alors justement, oui, ces fameuses traces de découpe, hein, donc c'est les traces qui sont laissées sur l'os par l'entaille. En fait, l'os est entaillé par une industrie lithique, une pierre taillée. Hein, donc on peut avoir des silex, mais on a à la Côte de l'Arago, justement, on a des quartz beaucoup qui sont une roche un petit peu plus résistante. Hein. Alors le souci, c'est que en fait, un bon boucher ne laisse pas de traces.
Ça, voilà. C'est la vertu des bons bouchers.
Voilà, donc de fait, sur des restes d'animaux comme sur les restes humains, d'ailleurs, on peut ne pas avoir de traces donc de découpe ou de fracturation, alors que finalement, ils ont été quand même l'objet de pratiques cannibales.
Là, on parle de traces visibles, mais je crois que voilà, vous parliez aussi de toute l'importance de la méthodologie, de la, du caractère systématique de ce travail d'observation. Aujourd'hui, on a aussi des méthodes d'analyse qui relèvent plus de la chimie, de la biochimie. Alors, quelles sont finalement les traces chimiques d'une pratique cannibale ? C'est pas des traces directes, on imagine, mais qu'est-ce que ça va nous dire ?
Alors justement, vous disiez avoir entre les mains un ossement et pouvoir le décrypter. Et alors ça m'est arrivé encore il y a peu de temps parce que dans une autre grotte, dans les Pyrénées, hein, pas très loin de Tautavel justement, mais à Montmorin, donc dans la grotte qui s'appelle Coupe-Gorge, nous avons découvert en 2022 un humérus humain. Alors dans des niveaux un peu récents, enfin qui sont situés entre 60 000 et 30 000 ans, donc dont on ne sait pas encore tout à fait s'ils sont du paléolithique moyen, donc la fin des Néandertaliens, ou bien du paléolithique récent supérieur, donc les Homo sapiens. Et cet ossement, en fait, on a tout de suite remarqué, donc on n'a que l'os long, les extrémités, elles ont été consommées en fait par un carnivore, sans doute par la hyène, qui est venue mâchouiller en fait les extrémités, qui les a consommées. Elle consomme la moelle à ce niveau-là. Et puis, on avait bien remarqué, parce que ce sont des marques évidentes, et comme on a en effet maintenant toute une typologie de ces traces, on sait très bien les observer. Mais après, je l'ai passé à la loupe binoculaire à fort grossissement. J'ai fait comme ça une couverture de l'ensemble de l'ossement. Et là, j'ai trouvé justement une trace de découpe du type de celles qu'on décrit pour être des traces anthropiques, c'est-à-dire faites par les humains. Autrement dit, c'est pas toujours observable à l'œil nu. Hein, il faut avoir des outils comme la binoculaire ou le MEB, hein, le microscope à balayage électronique, pour pouvoir vraiment identifier ces traces.
Et là, vous parlez d'un type d'os, l'humérus. Est-ce que tous les types d'os sont consommés quand on est cannibale, ou bien déjà la nature de l'os qu'on va retrouver au milieu des vestiges et des os de faune animale, on va dire, des animaux qui ont été consommés pour leur viande. Est-ce que il y a certains types d'os qui témoignent, des os humains qui témoignent d'une pratique cannibale en particulier ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la préservation osseuse, c'est-à-dire la répartition squelettique. Est-ce que vous avez tous les ossements ou pas ? Ça, déjà, c'est une bonne indication. On peut donner, en fait, deux exemples. Justement, on parlait de la grotte de Fombrégois. Il a été montré qu'on avait pas d'os de main et de pied. Et donc, il a été proposé comme hypothèse, alors qu'on a tous les autres ossements, et bien que justement, on est dans un cas de cannibalisme de guerre, et que là, les mains et les pieds ont été, par exemple, conservés comme trophées. Voilà. À l'Arago, puisque nous en parlions, on a fait un peu le point et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas toutes les parties anatomiques. Qu'on a finalement les parties anatomiques les plus nutritives et qui ne se sont pas encombrées, entre guillemets, de la cage thoracique, des côtes, etc., qui est finalement d'un apport nutritif moindre. Donc là, on se dit, ils ont dû choisir en fait les parties des individus qu'ils ont rapportées dans la cavité pour les consommer. Et donc là, on est sur un cannibalisme gastronomique peut-être, parce que voilà, c'est des parties qui sont goûtues, ou alors un cannibalisme de famine, enfin voilà, un cannibalisme de survie ou de nécessité, mais on voit en tout cas qu'il y a un vrai choix dans les parties anatomiques. Et ensuite, ce que ça peut nous indiquer, c'est en comparaison avec les ossements animaux fossiles. Parce que là, on essaie de regarder si on a les mêmes parties qui sont conservées sur les animaux que sur les humains, et si on a les mêmes types de gestes de boucherie, donc les fracturations, les stries de découpe, aux mêmes endroits sur les animaux ou sur les humains, pour voir si justement on est sur de la boucherie, soit de l'humain ou de l'animal, on fait pareil, ou alors si on a un traitement spécifique pour les humains. Et ça, on voit par exemple à l'Arago, on voit à Tautavel qu'on n'a pas toutes les parties osseuses, alors que pour les animaux, on aurait tendance à avoir tout le squelette, ça fait une différence quand même. On est à 450 000 ans, donc c'est le genre de différence auquel on accorde un peu d'importance. Mais dans d'autres sites, je pense au site par exemple de Burankaya en Crimée, où là on a des Homo sapiens autour de 36 000 ans. Et là, en fait, il a été vraiment démontré que le traitement des carcasses animales et des humains est différent. Donc on se dit, ils n'ont pas été finalement consommés dans le même but ou dans les mêmes circonstances. Et c'est là qu'on peut commencer à parler d'un cannibalisme à ce moment-là qui serait symbolique, qui serait rituel, qui serait comme une pratique mortuaire ou peut-être même funéraire.
On va venir bien sûr tout à l'heure à la question délicate de l'interprétation à donner à ce cannibalisme à la préhistoire. Mais j'aimerais qu'on revienne à un autre site aussi, Amélie Villalet, que vous connaissez bien, le site d'Atapuerca en Espagne, qui livre régulièrement des trésors fossilisés, humains. Cet été encore, 2025, il y a eu une découverte. Pouvez-vous nous en parler et nous dire ce qu'on a découvert en lien avec cette thématique du cannibalisme dans les temps anciens ?
Alors c'est vrai que Atapuerca, bon, ce sont des sites fabuleux. Mmh. On a déjà l'occasion d'en parler ici. Nous avions parlé de Pink, qui est donc trouvé dans un de ces sites à la Cima de Elefante, qui date de 1,4 million. Mmh. On a des sites beaucoup plus récents, comme la grotte qui s'appelle El Mirador, et dans laquelle on a des restes de populations du néolithique, de l'âge du bronze, donc sur des périodes beaucoup plus récentes. Entre les deux, on a Gran Dolina, qui est daté à 850 000 ans. Et en fait, on connaissait le site de Gran Dolina par un grand sondage qui a été fait dans les années 90. Et arrivé à un certain niveau qui s'appelle TD6, on a trouvé 150 restes humains.
Ça, c'est donc le jackpot quand même quand on est paléanthropologue.
Ah oui, là, oui. C'est vraiment une belle découverte. Et donc là, on est dans les années 90, presque 2000. Et les collègues espagnols trouvent que morphologiquement, ces humains sont un peu différents de ce qu'on connaît. Ils les appellent homo antecessor. On obtient une datation assez précise. On est autour de 850 000 ans. Mais tout de suite, ce qui frappe, c'est qu'il y a essentiellement des jeunes individus. Ce sont des fragments d'os. Ils sont souvent très fracturés et surtout, on observe tout de suite les fameuses traces de découpe. Donc là, on a très peu de doutes sur le fait qu'on soit sur un cas de cannibalisme qui touche justement des individus plutôt jeunes.
Il ne faisait pas bon être un juvénile homo antecessor à Atapuerca il y a un peu plus de 800 000 ans.
À moins de courir vite. Et oui. Donc cet été, les collègues, enfin j'étais parmi eux, j'ai eu cette chance sur la début juillet, là, mais la découverte s'est produite après finalement. Ils ont découvert dans ce même niveau TD6, parce qu'en fait, après ce sondage, il a fallu reprendre la fouille du dessus. Mm-hmm. Et donc, c'est seulement maintenant, donc presque 30 ans après, 25 ans après, là, qu'on arrive à ce niveau TD6 qui maintenant va être fouillé en extension. Donc, on n'a pas fini d'en parler parce que chaque été, il y aura des découvertes spectaculaires puisque le niveau va être ouvert en extension et va livrer beaucoup d'autres fossiles. Et donc là, en effet, il y a plusieurs dents qui sont sorties. Voilà, il y a plusieurs éléments. Au milieu, il faut quand même le rappeler, ça c'est un élément qui me semble important, au total 1300 coprolites, c'est-à-dire excréments d'hyènes qui sont fossilisés. Ça veut dire que c'est quand même, dans ces premiers niveaux, on est quand même dans une espèce de tanière d'hyènes. Hein, et c'est là qu'on trouve les restes humains. Et donc, parmi ces restes humains nouveaux qui ont été mis au jour cet été, il y a un fragment de vertèbre, cette fameuse vertèbre qui porte le crâne, qu'on appelle l'atlas, qui est fragmentaire et qui présente des stries, de très belles stries de découpe. Et à ce moment-là, on s'est posé la question, et les collègues espagnols ont l'air de conclure dans ce sens-là, à savoir que ce sont sans doute des stries de désarticulation de la du crâne et des vertèbres cervicales, ou bien peut-être même
une décapitation.
Voilà, une trace de décapitation.
Atapuerca a aussi livré des restes plus récents, datant de l'âge du bronze, il y a 5700 ans, qui là aussi témoignent de pratiques cannibales. Je le disais en introduction de cette émission, Amélie Viellet, cette pratique du cannibalisme, elle est constante chez toutes les espèces du genre homo, depuis Homo antecessor jusqu'à Sapiens.
Ah oui, c'est ça. En fait, vous le disiez aussi, c'est pas systématique, mais on a toujours un peu en bruit de fond. Et pour certaines périodes, quand même, c'est une pratique qui gagne en importance. Et le néolithique, c'est le cas. C'est vraiment une période au cours de laquelle on a beaucoup de cas. Mais c'est vrai que, même en regardant un peu loin dans le registre fossile, on trouve toujours, sur les premiers homo sapiens, le site de Herto, par exemple, en Afrique de l'Est, on a des traces de cannibalisme. Donc, c'est vraiment une pratique qui n'est pas absente du registre fossile.
Alors tout ça nous conduit à la question délicate du sens qu'on peut donner à cette pratique du cannibalisme. Pour introduire cette question, j'aimerais vous faire entendre la voix de l'archéologue et préhistorien Jean Guilaine. En 2003, il répondait aux questions de Jean-Noël Jeannet dans l'émission de France Culture Concordance des temps.
Un certain nombre de préhistoriens n'admettent pas le cannibalisme, peut-être pour des raisons qui sont des raisons philosophiques aussi, on ne sait pas trop. Mais en fait, on a effectivement ces restes qui d'ailleurs ne sont pas propres à ces temps anciens. On va retrouver du cannibalisme au cours de périodes récentes, de la préhistoire et même de la proto-histoire.
Mais est-ce qu'on pense que c'était pour des raisons rituelles, en somme, ou pour des raisons simplement parce qu'il fallait se nourrir dans certains cas de famine?
Alors, les raisons alimentaires, elles ne sont pas corroborées par l'ethnologie, souvent, sauf dans de très rares cas. En fait, il semble que le cannibalisme obéisse surtout à des buts, à des raisons rituelles. Et là, vous savez, on a tendance à faire la différence entre un endocannibalisme, c'est-à-dire lorsque l'on consomme des gens de son propre groupe, pour conserver les qualités, par exemple, pour s'imprégner du corps d'un parent, Alors là, on peut même dire que c'est un acte rituel qui tend à la sublimation, d'une certaine façon. Et puis ensuite, vous avez l'exocannibalisme, c'est-à-dire on peut manger une partie du corps d'une personne d'un autre groupe. C'est souvent un guerrier que l'on a vaincu. Alors le vainqueur, évidemment, mange les restes de son ennemi pour capter en quelque sorte son énergie et en même temps pour l'empêcher de revivre.
Amélie Viallet, plusieurs choses m'interpellent dans cette archive et dans le propos de Jean Guilaine. Déjà, le tout début, quand il dit il y a encore un certain nombre de préhistoriens qui se refusent à admettre l'existence d'un cannibalisme. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou bien... Voilà, et comment on peut expliquer ce refus, ce rejet a priori ?
C'est le cas comme on peut réfuter quand on a peu de preuves, finalement. Parce qu'on l'a dit, les témoignages sont quand même ténus. Après, il y a quand même quelques sites sur lesquels on reviendra peut-être, où on a une argumentation qui peut vraiment être importante et nous amener progressivement à reconstituer quand même l'ensemble du contexte et à prouver cette pratique.
Alors, il y a aussi un autre point, c'est ce recours à l'ethnologie, vous l'évoquiez en début d'émission. Pourquoi est-ce que ce recours-là peut être, dans certains cas, intéressant, justement, de comparer des pratiques plus récentes avec ces pratiques très lointaines du cannibalisme ?
Mais on se raccroche à l'ethnologie parce qu'évidemment, c'est un cas de figure qui est quand même relativement loin de nous, et on peut s'en féliciter. Et donc, c'est vrai que ça peut nous permettre de trouver des voies d'interprétation. Je pense que ça peut nous ouvrir un peu l'esprit sur la diversité des cas de figure et sur la complexité, en fait, des rapports humains et les codifications culturelles qui sont très strictes, en fait, dans tous les groupes, y compris dans nos sociétés actuelles. Donc ça, oui, après, faire une analogie stricte, ça c'est quasiment impossible.
Oui. Alors si on se rapproche autant que possible des faits qui ont provoqué cet acte cannibale, déjà on peut assez facilement dire si oui ou non les personnes qui ont été cannibalisées l'ont été dans un contexte de tension alimentaire.
Voilà, alors c'est rarement le cas finalement, parce que justement tous les sites qu'on a évoqués, Grandolina, Totavel ou bien le site d'El Mirador, donc à Tapuerca également, à chaque fois on n'a pas d'indicateur de stress alimentaire, de stress nutritif. On pourrait par exemple avoir des populations qui ont en fait manqué d'alimentation et donc ça se voit au cours de la croissance, dans la croissance osseuse ou dentaire, on voit des stress. C'est pas le cas pour notamment ces exemples dont on vient de parler. Donc, cette histoire de cannibalisme de survie, enfin de famine, par exemple, c'est difficile à argumenter dans les sites dont on parle, notamment aussi parce qu'on l'a dit, on retrouve ces restes humains avec des ossements d'animaux, et donc il y a beaucoup d'ossements d'animaux, il y a beaucoup de carcasses animales. C'est le cas à Totavel, dans certains niveaux, on a plus de 60 rennes qui ont été abattues ou des bouquetins. On a presque l'impression d'un abattage un peu de masse. Donc, on se dit, mais ils n'avaient pas forcément faim. Après, ce qui est vrai, c'est qu'ils fracturent leurs ossements, notamment les os longs ou les mandibules, pour récupérer la moelle ou le nerf mandibulaire, par exemple. Donc, pour récupérer tous ces tissus conjonctifs dont ils vont vraiment s'alimenter.
Ils sont très nutritifs.
Voilà, qui sont très nutritifs, qui sont aussi faciles à consommer. Hein, parce qu'à Totavel, par exemple, il n'y a pas de foyer aménagé. La maîtrise du feu n'est pas strictement attestée. Donc, on mange sans doute la viande un peu crue. Il y a des niveaux, on a estimé qu'on avait 4 tonnes de viande. Manger 4 tonnes de viande crue, c'est sans doute très indigeste, voilà. Donc la moelle, on voit qu'ils l'ont beaucoup consommée, donc les ossements sont quasiment systématiquement fracturés. Mais peut-être pas pour des questions strictement de manque alimentaire.
Jean-Guilaine parlait aussi de cette distinction entre endocannibalisme, le fait de manger des congénères, des membres du groupe, et l'exocannibalisme, le fait de manger des membres, des individus extérieurs au groupe. Comment peut-on déterminer justement qu'un individu est extérieur au groupe qui l'a mangé ?
Alors, c'est très difficile. Il y a déjà, justement, vous disiez aussi, il y a un peu des sceptiques dans cette affaire. Certains de nos collègues vont, par exemple, considérer de façon très triviale le fait que, on n'a qu'à mettre les humains, finalement, dans les ressources carnées en général. Et puis, on va considérer, pour essayer de voir si c'était intéressant de consommer de l'humain. Alors, c'est intéressant. Le rapport, en tout cas, coût-bénéfice, il est intéressant si vous mangez vos morts. tout simplement, parce que là, ça ne vous coûte rien. Et en effet, vous les consommez, ça ne vous coûte rien. Donc là, en effet, on considère que c'est du coup un gain direct. Donc bah, dans ces cas-là, l'endocannibalisme, c'est une hypothèse privilégiée. Après, c'est très difficile d'envisager, enfin de pouvoir apporter la preuve que ces humains qui sont consommés sont extérieurs au groupe. Mais justement, donc l'équipe espagnole qui a travaillé sur la série d'El Mirador a pu le démontrer pour cette période alors un peu récente.
On est
il y a 5700 ans, donc c'est très récent. Mais ils ont fait des analyses qu'on appelle de strontium. Donc là, c'est des analyses chimiques qui permettent en fait de tracer un petit peu les territoires. Parce que l'eau que vous buvez, par exemple, dans un territoire, elle a une marque chimique particulière qu'on va retrouver finalement dans les éléments de votre squelette ou de vos dents. Mmh. Et donc, si on a à peu près les mêmes spectres en termes de strontium d'un territoire et chez un individu, on va pouvoir dire que cet individu appartient à ce territoire. Et si ce n'est pas le cas, bah, au contraire, on pourra dire que c'est un individu qui vient de plus loin. Et dans le cas de figure du Mirador, ils ont pu montrer justement qu'il s'agissait d'individus qui probablement avaient grandi dans le même territoire que celui où ils ont été retrouvés cannibalisés. Donc justement, là, on peut garder l'hypothèse de l'endocannibalisme.
Voilà, et donc pas un cannibalisme guerrier, mais alors du coup, cette question, oui, insoluble du cannibalisme rituel, symbolique, quel sens peut-il avoir pour nous qui rejetons le cannibalisme a priori comme un tabou occidental ?
Alors c'est vrai que ça nous dit beaucoup sur nos rapports au monde, aux êtres vivants, à l'autre et au corps. Et c'est vrai que je pense que dans notre société actuelle, peut-être que finalement, d'un point de vue scientifique, on fait une place plus importante à ce type de pratique parce que on le disait, dans un monde aujourd'hui quand même un peu violent. Mais en revanche, dans un monde où on a un rapport au corps qui est en effet très prude, il faut que ce corps il soit toujours stérilisé, enfin qu'on enlève tous les éléments qui puissent montrer les aspects un peu naturels. Et nos origines un petit peu animales. Mmh. Donc c'est vrai que nous projeter comme ça dans une image d'individu cannibale, c'est sûr que là, c'est très loin de nous.
Mmh. Alors, si on n'a pas la réponse définitive à cette pratique du cannibalisme, bah, au fond, moi je vais poser une question un peu brutale, mais pourquoi continuer à étudier ces traces-là ? Quelle question plus profonde ça nous pose ?
Oui, alors justement, je pense que c'est tout ce dont on vient de parler, le rapport aux autres, au corps et donc aussi à ces morts. La mort est un peu tabou aussi dans notre société. Hein. C'est vrai que je pense que c'est une question qui, bien évidemment, nous stimule beaucoup. On a envie de décrypter au mieux ces humains du passé, bien sûr, tout en sachant qu'il y a certaines limites, mais aussi peut-être de retrouver le témoignage d'autres grands équilibres entre l'homme et la nature tels qu'ils ont eu lieu dans le passé.
Et ça pose finalement aussi cette question d'un universel, de l'humain. L'humain est-il universellement voué à commettre des pratiques qui sont pour nous violentes, qu'elles soient symboliques ou non? Ça, c'est une vraie question aussi.
C'est ça. Je pense que chez les anglo-saxons, qui ont beaucoup plus travaillé la question que nous, ça a été repris tout ça dans un livre qui s'appelle « L'origine de la guerre » et qui a été publié par Jean-Claude Favin-Lévesque, qui était un de nos doctorants. Il a publié ça il y a peu de temps chez l'Harmattan en 2023. Il reprend un petit peu toute cette trame et justement, on voit bien que l'enjeu, au fond, c'est d'enraciner la violence. Est-ce qu'elle est intrinsèque aux êtres humains, mais est-ce qu'elle est innée ou pas? C'est bien de ça dont il s'agit. Et je pense qu'en remontant le fil comme ça de ces pratiques cannibales qui se rapprochent d'une certaine forme de violence ou de traces de conflits entre groupes, c'est un petit peu ce qu'on essaye de tester. L'homme est-il fondamentalement bon ou pas?
Vous avez quelques heures pour répondre à cette question, vous qui nous écoutez. Merci beaucoup en tout cas à vous, Amélie Viallet, d'être venue nous parler de cannibalisme à la préhistoire. Notre voyage dans le temps touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Jean-Guilain Meige aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.